La parole du jour avec Paul Rodier.
Bonjour à toutes et à tous. Christ est ressuscité, alléluia. Aujourd'hui, c'est le texte de Luc au chapitre 24, versets 13 à 35, qui vous est proposé par l'Église. Le texte, ce sont les pèlerins d'Emmaüs. Vous l'avez peut-être devant vous, je vous invite à le suivre. Ce récit a pour but de montrer comment, après avoir conversé avec lui sur la route, les disciples en viennent à reconnaître Jésus lors du souper. Il ne contient aucun envoi en mission. Si Luc y attache tant d'importance, c'est qu'il implique considérablement le lecteur en étant pour lui, pour nous, d'une actualité et d'une valeur permanente. La vie ecclésiale, avec ses assemblées cultuelles où sont proposées l'explication des Écritures et la fraction du pain, est le lieu où le croyant peut reconnaître aujourd'hui la présence du Seigneur ressuscité. L'exégète Charles Pierrot écrit « Le compagnon innommé de Cléophas porte le nom de chacun des croyants, le nom de la chrétienne ou du chrétien qui lit ou écoute ce texte. » Ce qui se passe sur la route s'ouvre par la rencontre de deux disciples qui cheminent avec un troisième voyageur qu'ils ne reconnaissent pas et qui n'est autre que Jésus. C'est une nouvelle fois en chemin, mais dans le voisinage de Jérusalem, que Jésus va instruire les siens. La raison du voyage est implicitement dévoilée dans le dialogue qui suit. Les deux hommes ont quitté le groupe de ceux qui étaient réunis avec les onze, abandonné la ville où l'exécution de leur maître a sonné le glas de leur espérance. Ils rentrent chez eux, dans un bourg peu connu, à 11 kilomètres de Jérusalem. L'identité de Jésus nous est aussitôt fournie, tandis qu'aux yeux des disciples, il n'est qu'un pèlerin, comme eux, venu célébrer la Pâque à Jérusalem. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, non de le voir. En évoquant l'action divine, le Verbe au passé nous apprend que l'inintelligence des deux hommes et leur lenteur à croire ne sont pas seules en cause. Les yeux de chair sont impuissants à reconnaître le ressuscité, car il est entré par la résurrection dans une condition radicalement nouvelle. Comme dans la transfiguration, son aspect est tout autre, il est entré dans sa gloire. L'humanité même de Jésus relève désormais du monde de Dieu, qui ne peut être connu que par les yeux de la foi. C'est au Seigneur d'ouvrir les yeux, l'intelligence, le cœur. Ici, il va lever le voile qui est sur leurs yeux par l'interprétation des Écritures puis la fraction du pain. S'entame alors, à l'initiative de Jésus, une conversation sur la route, dont le vocabulaire se retrouve largement dans les discours missionnaires des Actes des chapitres 2 à 13. De la sorte, il nous est dit que la prédication apostolique est liée directement à Jésus ressuscité. Après un bref échange où Cléophas souligne le caractère public de l'exécution du Nazarénien, le discours des disciples commence par offrir un résumé du ministère et de l'exécution de leur maître. Ainsi donc, après que ces hommes aveuglés aient fait grief à leur interlocuteur de son ignorance, les voilà qui informent Jésus sur ce qu'il sait bien mieux qu'eux. Présenter Jésus comme prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple n'est certes pas une confession christologique exhaustive, mais c'est un langage dont usent Jésus et les apôtres. Le problème est que les autorités juives légitimes, notamment religieuses, ont jugé qu'il était un faux prophète. Ils sont présentés comme ayant eux-mêmes procédé à l'exécution. Cela ne signifierait-il pas que Dieu désavouait Jésus ? Une telle récapitulation est une prédication missionnaire tronquée. La passion s'y trouve, mais non la résurrection. Le ministère et la mort de Jésus sont présentés du point de vue de disciples déçus dans leur espérance nationaliste et messianique. Ils en viennent alors à relater les événements du jour. Tout y est. La double visite au tombeau, la double constatation de la disparition du corps, l'apparition et le message céleste. La proclamation pascale s'y trouve même. Les anges disent que Jésus vit. Mais le groupe des hommes ne l'a pas vu. À l'exception des femmes, personne n'accorde sa foi à cette proclamation. Du coup, le troisième jour ne voit pas la proclamation de la résurrection, mais une contestation du témoignage des femmes. Jésus prend la parole. Il reproche à ses interlocuteurs non pas de ne pas le reconnaître, mais d'être si lent à croire au plan divin du salut consigné dans les livres prophétiques. Le dénouement de l'action s'ouvre par le souper d'Emmaüs. La reconnaissance du ressuscité est amorcée par l'interprétation des Écritures qui donne sens à la mort du Christ et en montre le rapport avec sa gloire. Mais elle ne va s'accomplir que dans la fraction du pain. Dans l'Église, il faut refaire le geste du dernier souper qui se rattache étroitement à la mort de Jésus pour reconnaître le ressuscité. En faisant semblant de les quitter, Jésus conduit les disciples à prendre l'initiative. Ils offrent l'hospitalité. Et c'est alors que le Christ rompt le pain, comme à la scène du Jeudi Saint, manifestant ainsi sa présence. C'est alors que les disciples reconnaissent, mais il disparaît. L'invisibilité n'équivaut plus à l'absence. Est ainsi anticipée la présence du Christ dans le pain rompu. Le Christ est invisible, mais présent. Ainsi donc, les pèlerins d'Emmaüs font l'expérience du ressuscité. Ils ont droit à une véritable catéchèse. Nous aussi, prenons le chemin des Écritures, la lumière jaillira et nos cœurs s'embraseront. Comme avec Marie-Madeleine et l'autre Marie, Jésus nous envoie auprès de nos frères pour témoigner de la résurrection. Comme les disciples d'Emmaüs, ne gardons pas pour nous cette merveilleuse nouvelle, Christ est ressuscité, et courons vers nos frères pour proclamer cette bonne nouvelle. Soyons comme ces disciples qui racontent plein de joie ce qu'ils viennent de vivre. La résurrection est un mystère comme celui de l'Eucharistie, où Jésus se rend réellement présent dans la fraction du pain. Par la parole et par l'Eucharistie, Dieu se donne à nous en plénitude quand nous l'accueillons dans la foi. Ne passons pas à côté des signes de sa présence dans la simplicité du quotidien. Apprenons à les discerner et à nous en réjouir. Dieu fait une incroyable confiance aux pauvres âmes et femmes que nous sommes. Aujourd'hui encore, c'est dans la pauvreté et souvent dans l'indigence de nos paroles, de nos actes, de nos communautés qu'il veut passer pour se révéler aux hommes. Dieu ne choisit pas les grands moyens, mais les petits. Il faut sans cesse nous le rappeler, surtout lorsque nous sommes tentés par l'efficacité. Nous sommes ces bienheureux qui croient sans avoir vu. À demain.